La formation des enseignants, il paraît que c'est notre point faible, figurez-vous, selon une étude de l'OCDE qui est apparue lundi. Mais vous remarquerez qu'à chaque fois qu'on nous parle des enseignants, de toute façon, quelle que soit l'étude, quel que soit le sondage, quel que soit le gouvernement, il est question de points faibles. Quand on pourrait valoriser une profession de moins en moins attractive, force est de constater qu'on préfère l'accabler, l'échec, le point faible, le ratage individuel ou collectif. Ne cherchez plus, on sait très bien d'où il vient des profs, ou de ceux qui les ont formés, qui eux-mêmes sont profs, ou des concours de recrutement qui sont faits par des profs. Comme il est loin, ce temps où ce métier était respecté à sa juste valeur, ça m'évoque ce passage désabusé dans La Tâche de Philippe Roth, qui est aussi un grand roman sur la condition de l'enseignant, quand il écrit « Du temps de mes parents, et encore du mien et du vôtre, les ratages étaient mis sur le compte de l'individu. Maintenant, on remet la matière en cause, c'est trop difficile d'étudier les auteurs de l'Antiquité, donc c'est la faute de ces auteurs, j'y arrive pas, c'est donc que la matière pêche, ou c'est surtout que pêche ce mauvais professeur qui s'obstine à l'enseigner. Ne cherchez plus le coupable, vous l'avez. »
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Quelle image se fait mon invité d'aujourd'hui du métier d'enseignant. Elle est comédienne et dans L'école est finie, Dame de Pétrigny, elle incarne une jeune prof d'anglais qui, après sa titularisation, est forcée de quitter Paris pour enseigner dans une petite ville de province. Un film sur les préjugés, mais aussi sur les joies et la nécessité de s'adapter. Bonjour Bérangère Krief.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être là. Quel métier est-ce que c'est, prof, pour vous? Et j'espère que vous êtes conscient, parce que c'est important, que France Inter est une radio très prisée par le corps enseignant, oui. Que moi-même je viens de là.
Je pèse mes mots. Ah, vous aussi?
Oui, donc attention.
Ah, je ne savais pas.
Je repose ma question. Quel métier est-ce que c'est, prof, pour vous?
Bah, c'est vrai qu'avec le film, j'ai découvert un peu plus le rôle de prof. Que le dernier souvenir que j'avais, c'était moi en tant qu'élève. Donc il y a beaucoup de temps, je ne vais pas dire combien. Et en fait, le film a été inspiré par un vrai récit d'une professeure qui a écrit un peu un blog qui est devenu un livre. Et j'ai rencontré cette prof et je suis allée passer une journée là-bas.
Vous auriez pu être enseignante, vous?
Ça m'est jamais venu à l'idée. Je crois que, bon, j'étais pas contre l'école, mais j'étais contente d'en sortir.
Ah, c'est plus que ça, parce que moi j'ai lu des papiers où vous dites carrément que l'école, vous avez toujours adoré ça.
Bah, oui, je trouvais ça sympa, j'aimais bien le cadre en fait. On avait une récré, il y avait des potes, on mangeait à la cantine. Il y avait quelque chose qui me plaisait, ouais.
Et les profs, vous les aimiez ou pas?
Ça dépend desquels, mais.
Bah, c'est le moment où jamais.
J'étais un peu faillotte, je pense que j'étais un peu faillotte.
Madame Poré, monsieur Ballarin, monsieur Regard, on l'a remercié.
Bah oui, j'ai mon prof de maths, c'est monsieur Lacroix qui était très drôle, monsieur Joubert en anglais.
Faillotte.
Madame Murgier en anglais.
Faillotte.
J'étais très bonne en anglais.
Faillotte.
À l'écrit, moi à l'oral.
C'était votre matière préférée, l'anglais?
J'aimais beaucoup, ouais.
Ah oui, bah effectivement, parce qu'il faut le rappeler, vous jouez une prof d'anglais dans L'école
est finie. Oui.
Alors pourquoi l'anglais? Pourquoi pas le latin, la SVT ou même le sport? Parce que vous ajoutez quand même une difficulté du coup à ce rôle, vous auriez pu le changer, la matière. C'est difficile de parler anglais, je suppose.
Oui, mais non, j'ai tenu à garder ça. Je trouvais que c'était intéressant parce qu'il y a plein d'interactions qu'on peut proposer avec les élèves. Ouais, non, j'ai pas voulu changer.
Et vous avez révisé l'anglais pour l'occasion?
Ouais, mais moi j'étais bonne à l'écrit en anglais, mais j'ai pas pratiqué, je suis pas partie en voyage.
Vous savez qu'à un moment donné dans cette émission, on va devoir faire un petit test. Hein.
Bah oui.
Je sais pas quand ça viendra.
Et j'ai mauvais accent, quoi. Faut que je travaille l'accent, quoi.
Comment ça s'est passé? Vous avez eu un coach quand même, parce que.
Eh bah, c'est la prof d'anglais qui m'a coachée. Donc avec un accent bien Harry Potter, quoi, le truc de
Harry Potter. Qu'on peut appeler Henri Potier dans cette émission.
On peut l'appeler,
car on traduit tout.
Henri Potier, c'est bien. Mais je faisais un peu avec elle, comme j'ai le sens de l'imitation, parce que tu vois le truc de Christina Cordula. Et bah, je faisais pareil.
C'est quoi le truc de Christina Cordula?
Bah, je faisais l'imitation. Je faisais bonsoir ma chérie, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible, c'est magnifique. Et donc du coup je faisais comme ça, elle me faisait la phrase et je la répétais en imitation. Donc
d'accord.
Je faisais un truc où, en fait, il faut vachement se la péter avec l'accent anglais. Il ne faut pas avoir peur. En France, on a un peu peur de passer pour quelqu'un d'arrogant. Mais en anglais, il faut y aller, il faut mettre l'accent.
Quel genre d'élève est-ce que vous étiez à l'école, vous?
Bah, moi, j'étais trop mignonne. Déjà, j'aimais bien être devant.
Voilà,
le délire, la meuf. Déjà, j'étais au premier rang. J'étais pas dans les meilleurs, mais j'étais pas dans les moins bons. J'étais bonne élève, voilà.
En vrai, je suis sûr que vous mentez, Bérangère Krief, que vous passiez votre temps à bavarder, à coller des chewing-gums sous les tables, ou même à balancer des boules puantes, et que ce film, bah, c'est une façon de vous racheter.
Alors ça va? On s'adapte? Au bouseux?
Pourquoi tu dis ça?
J'ai bien vu comment tu me regardais depuis le début. Hein.
N'importe quoi. C'est juste qu'on n'est pas gâté en tant que prof ici, non?
Ah non, moi j'ai choisi d'être là, tu vois.
Ah carrément! Enfin, pourquoi pas, hein, je veux dire. C'est juste que t'as vu le niveau ici, ça vole pas haut, non? Puis tous ces gamins là, y'a que des roues.
C'est quoi les roues?
Non, laisse tomber, c'était une blague.
Non, dis-moi.
Non, j'ai rien dit sur les roues.
Bah si!
Mais je n'ai rien dit sur les roues.
Bah si, t'as dit quelque chose, dis-moi quoi?
Mais je n'ai rien dit sur les roues, enfin!
Vous avez clairement dit quelque chose sur les roues, Bérangère Krief, à Grégory Fitoussi dans L'école est finie, Dan de Pétigny. Je précise que j'ai un peu de rouge dans ma couleur de cheveux moi-même, du verbe avoir du rouge. Et ce qu'on découvre quand même dans cet extrait, c'est quand même que votre personnage, au départ, il n'est pas très recommandable. Bourré de préjugés, et pas seulement sur les roues. Elle est pleine de préjugés.
Oui, elle est propulsée. Moi, je trouve ça incroyable, d'ailleurs, d'être propulsée dans un endroit qu'on n'a pas choisi. Donc, du coup, elle part d'une grande ville, elle arrive à la campagne. Et donc, tout ce qu'elle est ne colle pas avec le reste de l'humour, la façon de faire, la façon de s'habiller. Tout ne va pas. Donc, c'est un carré dans un losange, quoi.
Vous avez rencontré des femmes dans ce genre, vous? Déjà.
Qui essayent de, qui arrivent pas à s'adapter.
Ou qui ont des préjugés et qui les appliquent.
Ah oui,
comme
oui.
Ça.
Et puis je pense qu'on se renferme encore plus dans ce qu'on croit pour se dire, mais non, moi j'ai une réalité qui est ailleurs, mais je vais l'emmener ici. Oui, j'en connais, j'ai pas d'exemple précis, mais ouais.
Alors ce qu'il faut dire quand même, c'est que vous n'êtes pas parisienne, mais lyonnaise.
Oui.
Bérangère Krief. Et ce film, quelque part, il joue sur cette idée d'un mépris de Paris vis-à-vis de la Provence. Mm. Avant de venir ici, Paris, ça représentait quoi pour vous?
Moi, ça a toujours été un rêve. Moi, j'ai regardé Amélie Poulain pour aller. Je me faisais le.
Bah, c'était une image un peu problématique de Paris.
Ouais, mais c'était voilà, Paris, ça me faisait rêver et tout. Quand je suis arrivée, ce qui était intéressant, c'est que quand je revenais à Lyon, au tout début où j'étais à Paris, je racontais des anecdotes à mes amis en disant oui, l'autre jour à Paris, et les gens me disent oui, à Paris. Je disais mais attendez, vous remplacez Paris par Bourg-en-Bresse et j'ai l'air de moi me la péter.
Ouais.
Juste, je raconte un truc. Donc il y a. Paris-Provence, c'est dans les deux sens, c'est 50-50. Quoi.
Mais vous vous sentiez comment à Paris quand vous avez débarqué?
Ah bah moi, je me sentais seule. Hein.
Ah bon?
Ouh là là. Moi, j'étais. Il n'y avait pas les portables pour savoir où aller au cinéma, par exemple. Je dormais chez une cousine à moi et elle partait bosser le matin avec son mari. Et moi, je me retrouvais dans la journée. Je dis, c'est bon, ok, bon. Alors, imaginons, je vais au cinéma. Mais c'est où? Comment je fais? Il n'y avait pas de truc.
Il y a des plans quand même.
Oui, mais le plan, il ne met pas l'UGC. Tu vois, donc du coup, j'ai.
Faut dire que c'était à l'époque d'avant les internets.
D'avant les internets.
Ouais, je vais l'expliquer quand même.
C'était, oui, bah oui, j'ai pas l'air si vieille, mais pourtant, j'ai connu cette
elle
époque.
Elle a 104 ans. Bérangère Krief.
J'ai connu le plan papier de Paris. Donc j'étais très perdue.
Mal à l'aise.
Ouais, je sentais qu'il y avait un speed, c'est-à-dire que tout le monde a l'air de faire quelque chose. Et moi, je voulais être comédienne et tout, donc j'avais le temps de voir. Et j'avais l'impression que tout le monde avait un projet, sauf moi. Et ça me déprimait, c'était horrible.
Qu'est-ce qui vous met mal à l'aise aujourd'hui, vous?
J'aime toujours pas ne pas avoir de projet et être livrée à moi-même dans l'immensité de la vie. Qu'est-ce qui me met mal à l'aise? Quelqu'un qui essaye d'être très drôle et qui l'est pas trop.
Ouh là là là, ça va mal se passer cette émission, c'est ma spécialité. Celle qui nous met mal à l'aise, précisément, vous la connaissez sans doute, c'est la culture. Et son actualité gênante hein, dans cette émission embarrassante, désinvolte, surtout le vendredi. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, vendredi 15 juin? Rallumer le feu, Johnny aurait eu 75 ans aujourd'hui, 6 mois après sa mort. Une journée anniversaire célèbre sa mémoire dans toute la France. Tandis qu'à Paris, un hommage suivi d'une messe est prévu à la Madeleine. À Marseille, c'est une soirée de débat autour de la vie de l'idole qui est organisée au château de la Buzine. Toujours plus rock, à Viviers-sur-Ardèche, une statue à l'effigie de Johnny va être inaugurée. Elle fait 3 mètres de haut. Rock'n'roll. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. La DER des DER, la Maison Rouge à Paris, inaugure demain sa dernière exposition avant fermeture définitive. La fondation créée depuis 2004 par Antoine de Galbert cessera toute activité à partir du 28 octobre prochain. Comme une métaphore, son dernier événement est titré « L'Envol ». Il réunit 200 œuvres d'art brut, modernes et contemporains pour interroger le plus grand rêve des hommes depuis Dédale, cette quête infinie de liberté et d'insoumission.
Où sont les poulards? J'ai faim! Où sont les fèvres, les pâtés de serre? Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit!
On en a déjà les mots à la bouche. Le festival Clameur réunit ce week-end à Dijon les mets et les mots. Autour du thème littérature du goût, l'événement propose rencontres, expos, spectacles. On pourra assister par exemple à l'interprétation au fourneau des textes goûtus de Rabelais, Bocuse et même Céline, ou se plonger dans le fond gourmand de la bibliothèque de la ville. Bon appétit bien sûr.
Je te propose un voyage dans le temps via planète Marseille, je danse le Mia.
Mars Attack sort l'artillerie lourde pour célébrer ses 20 ans. Le festival marseillais va bombarder de BPM le parc Chanot au programme de l'électro qui tabasse avec Petit Biscuit, Paul Kalkbrenner et Nina Kravis. Mais surtout la crème de la crème de la scène rap française avec Moa La Squale, Nekfeu, L'Homme Pâle et les patrons d'IAM qui jouent à domicile. Ah oui mais non. Bérangère Krief, très gênée par moi, oui mais non, que j'ai
ah,
pas
oui,
trop bien compris.
Trop
oui
bien.
Mais non, on comprend ah oui mais non, ce qui serait problématique.
Oui, c'est,
alors non, c'est ah oui
quelqu'un
mais non.
De très indécis. Ah oui mais non.
Alors que non.
Okay.
Bérangère Krief, donc invité de Boomerang ce matin pour L'école est finie, un film très éducation nationale dans lequel vous jouez une enseignante d'anglais, un peu snob, mais qui somme toute à bon cœur et qui surtout s'avère être très drôle malgré elle. Vous connaissez la question que je pose dans ce cas-là, Bérangère?
Non.
Bérangère Krief, quand est-ce que vous avez trouvé votre clown?
Mon clown ou mon clown?
Non, votre clown. Ouais.
Ah, mon clown. Ah bah, je l'ai trouvé malgré moi. J'avais une quinzaine d'années. Je faisais un cours de théâtre depuis 4-5 ans au même endroit. Et on faisait toujours une pièce de théâtre à la fin de l'année, très drôle, plutôt bon enfant. Mais un jour, on a 15 ans et les copines du cours de théâtre disent « Non mais cette année, on fait un drame, ok ?» Donc on joue La Maison de Bernarda Alba de Federico Garcia Lorca, très grand drame espagnol. Et donc, on se retrouve à vouloir caster les rôles. Donc, il y a plusieurs rôles de jeunes filles, jeunes premières. Et donc, chacune lit à son tour. Et moi, je lis avec toute ma sincérité, vraiment ma sincérité. Et à la fin de ma lecture, la prof fait « Non mais, laisse Bérangère, on va te trouver autre chose. » Et je m'étais dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi elle rit ?» Et je me suis retrouvée avec le rôle de la grand-mère folle qui parle à un mouton. Je pense que j'ai fait un sketch. Hein. Je pense que j'étais la partie comique du spectacle, mais vraiment sans volonté de faire rire.
Il y a une tragédienne qui sommeille en vous quand même ou
mais
pas?
Bien sûr, évidemment.
Bon, en tout cas, votre carrière d'humoriste, elle débute sur scène. Vous avez déjà écrit 2 seuls en scène. Je crois que vous êtes en train d'écrire le 3e.
Oui.
Où vous en êtes là?
Là, je rassemble pas mal d'idées que j'ai eues en voyage. Je suis au début, j'ai la trame, j'ai les sujets. Faut que j'avance.
Et alors précisément, quels sont les sujets abordés, la grande trame?
Mais en tout cas, je sais pas précisément tout. Je voudrais pas parce que c'est fragile encore. Mais j'aimerais parler beaucoup plus personnellement en fait, que ce sera beaucoup plus imprégné de ce que j'ai vécu, partager un peu l'expérience de vie en tant que femme, de ce que j'ai vécu, entre mon premier spectacle. J'avais 27 ans, j'en ai 35. Il s'est passé des choses, et donc j'ai envie d'en parler.
Mais pourquoi je vous pose la question? Est-ce que depuis vos débuts, on vous connaît quand même pour ce discours un peu féministe? Je pense notamment à ce sketch sur la manière dont les filles se font draguer, entre guillemets, dans la rue. Au regard de tout ce qui se joue aujourd'hui en termes de lutte, qu'est-ce que ça vous inspire, vous?
Je suis devenue féministe pendant que je jouais ce spectacle, le sketch sur le harcèlement de rue. Moi, j'ai juste eu envie de parler de ça. Personne n'en parlait à l'époque. Et j'ai vu l'impact que ça avait. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais continuer dans cette voie-là et de me dire que mon spectacle est aussi un canal pour pouvoir véhiculer des idées.
Parce que ça l'a été avec ce sketch.
Voilà, et faire avancer les mentalités, pouvoir parler des choses dont on ne parle jamais.
Rassurez-moi, il sera MeToo, votre spectacle.
Il sera complètement MeToo.
Bon, dans le sketch que j'ai mentionné, vous donniez au public une petite leçon de répartie pour envoyer bouler les dragueurs indésirables. C'était très pédagogique. Et il se trouve que dans L'école est finie, il est aussi question de pédagogie. Pour faire apprendre l'anglais, votre personnage demande à ses élèves de choisir des chansons de leur choix et de traduire le refrain. Quelle chanson est-ce que vous auriez choisi, vous? Une chanson féministe, j'espère.
Oui, je pense que je choisirais une chanson, par exemple, I'm Every Woman. De
Whitney.
Ouais, c'est Chaka Khan, mais et Whitney en duo.
Vous voyez comme je suis.
Non, mais elles sont en duo, c'est pour ça.
Bon.
Mais parce que je trouve que c'est, on traduit les paroles, c'est
ah
ça.
Ah ouais, on y va.
Alors c'est I'm Every Woman, donc on voit bien que je parle hyper bien anglais.
Ouais.
I'm Every Woman.
Il est là le
it's
test.
All in me. Et je me suis dit, c'est en français, c'est les L5, c'est toutes les femmes de ta vie en moi réunies. C'est
ton
vrai.
Ton âme sœur, ton égérie,
parfois ta meilleure ennemie.
Ouais, effectivement.
Oui.
C'est peut-être la raison pour laquelle il faut jamais traduire les chansons en anglais.
C'est pour ça, ne le faisons jamais.
C'est pas une bonne méthode pour les profs d'anglais, on le saura. C'est interdit en réalité. Mais quand même respect, et du coup je vous donne 19 pour cette petite traduction.
Merci.
Pour vous remercier, on va écouter une petite chanson.
Allez.
Une chanson du vendredi.
Alors,
L'école est finie quand même.
Oh,
Sheila, 1963. Vous êtes sur France Inter avec Bérangère Krief. Vous écoutez Boomerang.
Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie là où est à nous que la joie vienne.
Ça signifie,
la vie est à nous.
ta main et prends la mienne. Nous avons pour nous toute la nuit. On s'amusera quoi qu'il advienne. Mais oui, l'école est finie.
Sur France Inter, Augustin Trapenard.
C'est vrai qu'à la voir comme ça, on pourrait croire qu'elle est encore au lycée, mais plutôt dans un lycée américain, je trouve.
Ah oui.
La bouille ronde, la blondeur et le sourire de la capitaine de l'équipe des cheerleaders. Hein, c'est elle, évidemment, toujours partante pour un salto avant, une roue, une petite pyramide improvisée pendant le cours de physique-chimie. Elle a son col Claudine, à fleurs, un petit nœud. Bérangère Krief, invitée de Boomerang ce matin. Pour l'école est finie, ce film où vous êtes, on le disait, une jeune prof d'anglais mutée loin de Paris, et on comprend bien qu'être prof, c'est sa vocation. Quand et comment est-ce qu'elle est née, votre vocation à vous, de comédienne ?
Bah, très tôt, pareil, les cours de théâtre, je faisais ça à côté de... En fait, j'ai l'impression que de toute ma famille était persuadée que je serais comédienne. Il y avait quelque chose d'acquis. J'ai pas eu ce truc où j'ai dû affronter les gens en disant « Non, mais c'est vraiment ce que je veux faire. » Mais c'était tellement OK que je me suis dit « Mais alors vraiment ?» Et moi, je vérifiais tout le temps. Donc, j'allais dans les cours de théâtre en me disant « Je vais vérifier. » J'ai passé mon bac, j'ai passé un Doug Art du spectacle pour bien vérifier que c'est quand même dans cette branche-là. Ensuite, je me suis intégrée dans une école. Donc je faisais ça 6 mois intensément, donc 8 heures par jour. Et je me suis dit, en sortant de l'école, si au bout de 6 mois, 8 heures par jour, je suis heureuse de le faire, ça veut dire que peut-être, potentiellement, ce sera mon métier. Évidemment. Après, à Paris, je dis, ok, je vais faire du one-man show, comment faire? Je m'inscris dans l'école du one-man show. J'apprends pour voir si seul, sur scène, ça me plaît. Et aujourd'hui, je regarde ça en me disant, mais bien sûr, évidemment.
Et quand c'était... vous avez fait votre coming out de comédienne à vos proches, ils vous ont dit, bah oui, évidemment, vous faites partie de ces gens.
Ouais, ouais.
Pour qui le coming out a raté, en fait.
Ah bah, mes parents, dans ma famille, c'était Charline, elle sera avocate, elle va faire ci, elle va faire ça, puis Bérangère, bah, elle sera comédienne, de toute façon. Et moi, ah oui, d'accord, ok.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est la relation avec le spectateur, avec le public. Et il se trouve que la salle de classe, dans le film, c'est un petit peu comme une scène de théâtre, où votre personnage, elle doit parvenir à se faire écouter de son public. Quel théâtre est-ce que c'est, d'ailleurs, pour vous, une salle de classe, vous qui l'avez vécu, le temps de ce tournage?
C'était intéressant, parce que là, pour le coup, il faut que je sois autoritaire, alors que j'avais une dualité. C'est que je voulais être la prof, enfin avoir cette autorité. J'avais observé la professeure dans son élément et je me suis dit, il y a un mélange de sympathie, d'autorité, un vrai équilibre. Et en même temps, moi, mon truc, c'est de faire rire et qu'on m'aime bien. Donc du coup, j'avais envie que les comédiens, les jeunes comédiens avec qui j'étais, qui étaient vraiment trop mignons, j'ai adoré.
Mais c'est une mauvaise méthode quand on est enseignant.
Et du coup, j'étais là, genre, aimez-moi bien, c'est un personnage. ils étaient super choux.
Qu'est-ce qui se passe en vrai quand vous êtes face à un public, vous, en tant que comédienne? Il n'y a jamais d'autorité. Il faut un petit peu d'autorité quand même.
Oui, il faut prendre sa place. En fait, c'est vraiment au début, on se dit, bon, alors, est-ce qu'ils vont bien m'aimer et tout? Et on se rend compte, avec la pratique, que c'est vraiment moi qui donne le ton. En fait, c'est moi qui fais la météo. C'est-à-dire que si j'arrive plombé,
le
public est plombé. Eux, ils sont contents, ils ont payé leur place, ils se sont installés pour me voir. Mais au tout début, moi, j'avais hyper peur. Je me disais, peut-être ils vont pas m'aimer, peut-être ils vont être déçus par rapport à ce qu'ils ont déjà vu.
Mais est-ce que
peut-être
vous devenez quelqu'un d'autre? Ça revient souvent, je trouve, quand je m'entretiens avec les comédiens, il y a une forme de dédoublement.
Oui. Alors, ce qui est intéressant, j'ai observé. Donc, il y a déjà des fois, j'étais, par exemple, je suis à Toulouse devant 800 personnes. Je suis dans une ville que je connais pas, devant 800 personnes que je connais pas.
Qu'on embrasse, la ville
on
rose.
On leur fait des gros bisous. À ma tata Yvette aussi, je fais un gros bisou.
Ok.
Et ben, je suis là et d'un coup, dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce que tu fous? Je me dis, t'es dans ta petite robe, tu parles aux gens, tu
encore aujourd'hui.
Ben oui, ça m'est arrivé. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a un twist dans le cerveau qui s'opère, qui fait que tu peux pas, parce que tout le monde dit, mais c'est incroyable, comment tu fais pour faire ça? Mais je ne réfléchis pas, hein. Je coupe. Il y a ça, et tu peux penser tout en parlant à ah oui, tu dis, je joue, donc je fais mon sketch, je parle. Et dans ma tête, il y a, ah, mais attends, j'ai reçu un texto de machin, j'ai pas répondu. Ah oui, il faudrait que j'y pense parce que demain, oui, d'accord.
Pendant que vous jouez.
Et pendant que je joue, je peux penser. Enfin, c'est assez incroyable. Le cerveau est magnifique.
Le cerveau est magnifique. C'est une phrase qu'on répète souvent ici dans cette émission. Je vous pose aussi la question parce que ce film, c'est justement l'histoire d'une transformation progressive. Votre personnage évolue, tout comme le film qui peu à peu tourne à la comédie romantique. Vous en regardez, vous, des comédies romantiques?
Alors moi, je suis très fan des comédies romantiques.
Ah, c'est vrai?
Ouais.
Lesquelles?
Alors, j'ai beaucoup regardé. Il y en a une que j'aime beaucoup, c'est The Holidays. J'adore.
Avec
Jude Law,
Kate Winslet et Cameron Diaz. On le conseille aux auditeurs de Boomerang.
Jack Black.
Même si on le conseille plutôt à Noël.
Oui, c'est un film de Noël.
Film de neige.
Ouais, il y a Love Actually, évidemment. Mm. Et après, alors, Pretty Woman, j'avais un peu parlé dessus parce que Pretty
Woman. Bah là, vous me touchez. C'est mon film préféré, moi.
Ah oui?
Vous aussi?
Bah, j'ai beaucoup aimé et en même temps, je me suis dit, c'est un peu une arnaque, quoi.
Pardon?
Bah oui, parce que je me dis, cette femme, voilà, cette prostituée qu'elle a, elle tombe quand même sur Richard Gere, la meuf.
Ouais, c'est vrai.
C'est pas de la chatte, ça?
Non, c'est possible à Hollywood, pourquoi vous dites
bah
ça?
Bah voilà, c'est super, mais du coup, elle tombe sur un super mec. Après, elle est hyper féministe parce qu'elle lui dit, attends, tu vas pas m'acheter avec une belle robe ou un truc d'hôtel, je me débrouille toute seule. Enfin, il y a tout un truc où, et puis j'adorais, c'est au début, tu sais, elle a une perruque sur la tête et j'avais adoré le moment où elle l'enlève. La meuf, elle a des cheveux de ouf, cascade de cheveux.
Ouais, on a l'impression qu'elle sort de chez le coiffeur. Ouais,
bien sûr, moi, tu mets une perruque comme ça, j'ai un brushing de toit de chaume, tu vois, quelque chose de horrible.
Bon, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, quand on n'est pas d'accord comme ça?
Quand quoi?
Quand tous les deux on n'est pas d'accord, parce que moi je vais pas changer d'avis comme ça sur.
Mais non, mais on tolère.
Moi, on tolère.
Mais bien sûr, les comédies romantiques. En fait, je crois qu'il faut se dire que les comédies romantiques, c'est un plan rêve, mais il faut pas chercher dans la vie la comédie romantique, ce qui était un petit peu mon cas.
Ah bon?
Ah bah ouais. Bah, tu voudrais que ça se passe comme ça. Tu voudrais être Cameron Diaz qui part en échange d'appartement dans une maison pourrie au fin fond de l'Angleterre et le frère de la meuf qui te loue l'appart, c'est Jude Law.
Ouais, alors que dans la vraie vie, tu te retrouves avec Jude Law.
Jude Law et
son cousin.
Voilà. Et il est chiant, il squatte et c'est pénible.
Mais c'est l'horreur.
Hein. Voilà. Ouais.
Donc ne vivons pas dans une comédie romantique. Voilà une bonne leçon qu'on a appris dans Boomerang sur France Inter. Vous nous avez fait un cadeau, Bérangère.
Pourquoi?
Bah, vous nous avez fait un cadeau. Vous êtes venue avec quelque chose.
Oui, je suis venue avec quelque chose. J'ai eu envie de parler de quelque chose. Bah, en fait, en plus, je voulais vous faire plaisir parce que je voulais vous parler de ma dernière lecture. Je sais que c'est un sujet qui me parle.
Ça me touche beaucoup.
Alors ce matin, je vais vous parler de l'autrice Camille Emmanuel et de son livre Sans tabou. Sans, ça s'écrit avec un G. S-A-N-G. Vous avez deviné de quoi
j'ai
parlé?
Très très peur là.
Voilà.
Soudain,
à 9h30. Les règles. Boum. Voilà. Et là, oups, on a perdu 200 000 auditeurs. Pardon, Augustin. Et bon, comme quoi, je pense que c'est important qu'on parle de ce sujet. Alors, dans ce livre que je conseille aussi bien aux hommes qu'aux femmes, en fait, on apprend plein de choses sur ce grand tabou mystérieux des menstruations, mais aussi sur leur antichambre un peu méconnue, le SPM. Alors, une idée de ce que c'est le SPM?
Aucune idée.
Aucune idée. Eh ben, le SPM, c'est tout simple, c'est le syndrome prémenstruel. C'est tout un tas de troubles qui arrivent avant les règles. C'est les vrais trucs relous qui nous valent la douce et agréable phrase. Non, mais elle a ses règles ou quoi? Et non, elle les a pas encore, elle va les avoir. Et ça fout un bordel de partout. C'est des douleurs, c'est maux de tête, troubles de l'humeur, agressivité, dépression, que des choses qui, une par une, sont prises en charge par la sécu, mais que si tu les as toutes ensemble, eh ben, démerde-toi ma grande. Donc, pour un truc qui touche 70 à 90% des femmes en âge de procréer, je me dis que ça mérite qu'on se penche dessus. Oui. Donc, déjà, je me suis dit qu'on devrait commencer par trouver un adjectif pour en parler.
Oui.
Tu vois, la langue française, déjà, qu'elle permette de nous faire comprendre facilement, pour faire comprendre facilement ce qu'on a. Alors, je trouve qu'il y a des mots pour tout. Tu vois, même en cas de gaz à répétition, on a un mot très simple, on dit « je suis ballonné ». Voilà,
ouais,
il y a un mot. Et mais là,
moi, je l'emploie jamais. Mais
oui, mais tu sais, en gênance, tu dis ballonné. Et ben là, pour un truc qui touche un humain sur deux, il y a pas de mot. Alors, je me suis demandé qu'est-ce qu'on pourrait dire. Alors, pour nous mettre en situation dans la vraie vie, quand une femme est en SPM, elle est comment dire? Vous avez vu L'Exorciste?
Oui.
Bon, alors attention. Oui, non, tu ne viens pas.
Pas la scène de l'escalier.
Non, oui. C'est pas ça. Mais c'est ce que tu ressens à l'intérieur, comme une sorte de mutation génétique. En gros, t'as la gamine de L'Exorciste en toi, mais toi, tu dois te comporter en société comme Laura Ingalls. Alors, écoute, attends. Je sais, j'ai trouvé notre objectif. Notre adjectif pour dire qu'on est en syndrome prémenstruel, on peut dire je suis possédé. Donc voilà, vous demandez peut-être pourquoi je vous parle de ça ce matin.
Ah oui, là on le demande.
Mais je vais être honnête avec vous, ça se voit peut-être pas, mais là Augustin, je suis possédé en ce moment même. Là tout de suite maintenant, voilà, possédé. Mais ça va, je gère, hein. C'est pas toujours facile. Surtout quoi, mes symptômes à moi, c'est absence totale d'humour. Donc c'est un peu con dans ma discipline. Ultra-sensibilité, une humeur de chauffeur de taxi et les voix des gens qui m'énervent. Donc là, je gère. Si, si, je gère. Enfin, je gère. Non, mais je suis honnête. Vous vous souvenez quand vous m'avez demandé très gentiment au début de l'émission, bonjour Bérangère, comment allez-vous? Je vous ai répondu, ça va très bien, merci, je suis très heureuse d'être là. Et ben là, la Bérangère possédée, la première réponse qui lui est venue, c'était, écoute-moi bien, petit merdeux, je vais prendre ta langue et je vais te la faire bouffer avec ton micro de merde parce que ça va pas du tout, j'ai envie de crever là. Mais je le pense pas, moi. Parce que vous savez, je vous aime, ouais, Augustin. Bah, voilà. Et oui, mais ça, c'est ce que mon corps dit. Vous voyez la violence du truc? C'était, imaginez un peu la violence que c'est de contenir ça, de ravaler le venin, là, qui jaillit sans prévenir. Alors moi, j'aimerais aujourd'hui juste qu'on arrête de faire comme si ça n'existait pas. Je voudrais pouvoir dire quand ça arrive, écoutez les gars, juste pour vous dire, je suis en SPM. Et qu'on me réponde, ah ok, bah dis-moi si je peux faire quelque chose. Voilà, tout simplement comme un rhume, un torticolis ou une migraine. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai remarqué que si on ajoute une lettre à SPM, ça fait spam. Comme quoi, on est bien dans la famille des trucs de merde qu'on reçoit quand on n'a rien demandé. Alors, je précise quand même que je connais des femmes qui le vivent pas si mal que ça. Hein, c'est pas une généralité. Mais je dis juste qu'on devrait avoir le choix de pouvoir le vivre comme... de le vivre mal si ça fait mal, voilà. Et avoir le choix au lieu de sourire comme une conne ou de me sentir comme une petite chose fragile. Alors j'ai envie de dire un grand cri d'amour aujourd'hui. Mesdames, dites-le. Je suis en SPM, je suis possédée, c'est pas grave. Dites, ta voix m'énerve, mais pardon, c'est moi. Dites, ta blague est drôle, mais je ne rirai pas. Dites, je sais pas, et je m'en fous. Dites, écoute, j'ai pas envie de t'expliquer, mais lis le livre de Camille Emmanuel. D'ailleurs, aujourd'hui, je vous le dis, Augustin, je suis pas contre un petit câlin et un café. Donc si vous avez deux minutes pour votre invité possédé préféré, je suis pas contre.
C'est quoi, on va le faire. Un petit câlin et un café, parce qu'on est comme ça. Dans Boomerang, on saura tout sur Bérangère Frieff. Ce matin, mais merci. Et vous m'avez donné envie de lire ce livre.
Ouais, c'est hyper Emmanuel. Intéressant. C'est vraiment pour les hommes et les femmes. Hein. C'est pas du tout. Parce qu'il y a un grand tabou. Elle dit, Camille Emmanuel, pourquoi on se cache comme si on dealait de la coke avec un tampon dans la main? C'est vrai, tout le monde est au courant, c'est pas, voilà. Mais j'ai adoré ce livre, c'est très drôle et très instructif et c'est pas interdit aux hommes, elle en parle.
Merci beaucoup, Bérangère Frieff, d'avoir pris la parole ce matin, d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que L'école est finie de Anne de Petrini avec Patrick Chenet, Grégory Fitoussi, Marie-Lou Berry sort le 11 juillet. L'école sera finie, donc vous pourrez donc y aller sans sécher les cours. Merci beaucoup. Et merci à toute l'équipe de Boomerang qui tient le bon bout. Lola Costantini à la réalisation, Valentine Chedebois à la programmation, Léonard Billot, Pierre Martinerie, Maud Ventura, Jean-Baptiste Audibert pour la musique. Tout de suite, les médias. Sonia De Villers, juste après ça. She could get menacing, frightening, find help. Sometimes I scare myself. She could get menacing, frightening, find help. Sometimes I scare myself. Tweaking off that 2CB, huh? Is he gonna make it TBD, huh? Thought I was gonna run DMC, huh? I done died and lived again on DMT, huh? See, this the type of high that won't come down. This the type of high that get you gunned down. Easy trolling OD, huh? Turn TMZ to smack DVD, huh? Russell Simmons wanna pray for me too. I'ma pray for him cause he got me too. Thinking what if that happened to me too? Then I'm on E! News. She could get menacing, frightening, find help. Sometimes I scare myself. She could get menacing, frightening, find help. Sometimes I scare myself. Hey, hospital band, 100 bands, fuck a watch. 100 grand and make your best friends turn to ops. I hear y'all bringing my name up a notch. Guess I just turned the clout game up a notch. See, y'all really shocked, but I'm really not. You know how many girls I took to the titty shop? If she get the ass with it, that's a 50 pop. I still bring the bad bitches in the city, y'all. Just a different type of leader. We could be in North Korea. I could smoke a Wiz Khalifa. Told my wife I never seen it. After I hit it by Felicia, that's the way that I'ma leave it up. Menacing, see, this is why all the bitches fuck with ya. Fuck what they talk about. Sometimes I scare take me on myself, off mask, ask yourself. She could get menacing,
frightening.
Ask your homegirl right out. Now. Look, you had a
sometimes
shot at yay.
Yeah. I scare myself.
Tweaking off that 2CB, huh? This is why your bitches fuck with me, huh? Smash, she gon' end up on TV, huh? Last thing that you ever wanna see, huh? I can feel the spirits all around me. I think Prince and Mike is tryna warn me. They know I got demons all on me. Devil been tryna make an army. They been strategizing the army. They don't know they dealing with a zombie. Niggas been tryna test my Gandhi. Just because I'm dressed like Abercrombie. You see? That's what I'm talking about. That's why I fuck with Ye. See, that's my third perk. That's my bipolar shit, nigga. What? That's my superpower, nigga. Ain't no disability. I'm a superhero. I'm a superhero.
Yeah! Yikes, Kanye West sur France Inter. Et c'est l'heure de Sonia De Villers. On vous écoute, Sonia, les médias.
Mais la playlist de France Inter.
Elle est formidable.
Wow. Ouais.
C'est un petit moment pour la saluer, celle de Jocelyn Perrotin.
Exactement.
Et de tous ses programmateurs. Je vous embrasse de tout mon cœur.
Salut,
et je vous vois lundi.
Salut. Ciao.